Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia, bonjour. L'émissaire spécial de la CDAO, Goodluck Jonathan, est arrivé hier à Bamako face à la nouvelle donne au Mali où le colonel Assimi Goïta a prêté serment la veille en tant que nouveau président de la transition. Abdourahmane Dia fera le point. Au Burkina Faso, quelques 7000 personnes ont fui leur foyer après l'attaque contre le village de Solan qui a fait officiellement au moins 132 morts et 160 selon des sources locales dans le nord-est du pays. Ces personnes se sont déportées à Séba, chef-lieu de la province du Yaga, situé à une quinzaine de kilomètres de Solan, a déclaré le premier ministre burkinabé Christophe Dabiré, qui s'est rendu sur place lundi. Les dispositions ont déjà été prises pour leur assurer un minimum de confort, de logement, de restauration, a-t-il ajouté. Nous y reviendrons avec Eric Manirakidza. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a affirmé mardi que son pays était prêt à intervenir d'une manière ou une autre en Libye voisine pour stopper l'avancée des forces du maréchal Khalifa Haftar lors de leur offensive lancée sur la capitale Tripoli en 2019-2020. Dans un entretien diffusé mardi soir par Al Jazeera, M. Tebboune a dit avoir songé à une intervention en Libye car Tripoli est une ligne rouge. Selon des analystes, Alger, soucié des risques d'instabilité à ses frontières, entend ainsi peser davantage sur la scène régionale en Libye et au Sahel. Toujours en Algérie, la campagne électorale pour les législatives du 12 juin a pris fin mardi. Un scrutin dont le principal enjeu sera la participation, puisqu'il est rejeté par une partie de l'opposition et le mouvement contestataire du Hirak. Au moins 51 enfants, des filles pour la plupart, ont été enlevés en 2020 par les groupes djihadistes qui terrorisent le nord-est du Mozambique depuis plus de 3 ans, selon l'ONG Save the Children. L'enlèvement d'enfants est devenu une nouvelle tactique d'une régularité alarmante de la part des groupes armés impliqués dans le conflit, alerte ce mercredi l'organisation dans un communiqué, ajoutant que ces chiffres ne reflètent que le nombre de cas signalés. Les économies avancées vivent leurs meilleurs jours, les pays à faible revenu les pires. L'économie mondiale va enregistrer cette année sa plus forte croissance en 80 ans, mais les pays pauvres, en manque de vaccins contre le Covid, continuent d'être à la traîne, a déploré mardi la Banque mondiale. Ici à Washington, dans un rare moment d'union entre démocrates et républicains, le Sénat américain a adopté hier un projet de loi prévoyant des investissements ambitieux dans la science et les technologies, présenté comme un texte historique pour contrer la menace économique de la Chine et son modèle autoritaire. Plus de 170 milliards de dollars sont destinés à la recherche et au développement en visant notamment à encourager les entreprises à produire aux États-Unis des semi-conducteurs aujourd'hui essentiellement fabriqué en Asie. Près de 5 mois après son arrivée au pouvoir, le président américain Joe Biden se rend ce mercredi au Royaume-Uni, première étape d'une tournée européenne riche en sommets G7, partenaires européens et de l'OTAN, et qui s'achèvera par un face-à-face avec son homologue russe Vladimir Poutine le 16 juin à Genève. Mon voyage en Europe est l'occasion pour l'Amérique de mobiliser les démocraties du monde entier, a assuré M. Biden. Il ne cesse de dire que les États-Unis sont de retour et entendent s'impliquer pleinement dans les affaires du monde. Pour sa part, la vice-présidente américaine Kamala Harris, en visite au Mexique après le Guatemala, a déclaré hier avoir eu des discussions franches et productives avec le président mexicain Andrés Manuel López Obrador sur la question de l'immigration clandestine. Elle a signé avec lui un protocole d'accord destiné, selon elle, à s'attaquer aux causes profondes de la migration.
La suite de nos informations. Le médiateur de la CEDEAO sur le Mali est à nouveau à Bamako. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est arrivé hier dans la capitale malienne après les assurances du nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sur cette même transition. Abdourahmane Dia.
Goodluck Jonathan arrive au lendemain de la prestation de serment de Assimi Goïta en tant que président de la transition. Dans la foulée de son investiture, il a nommé un nouveau premier ministre de la transition, un civil, comme le réclamait une partie de la communauté internationale. Lundi, le colonel Goïta a tenté de rassurer les partenaires du Mali. Il a dit son intention d'organiser des élections présidentielles et législatives aux échéances prévues, donc le 27 février 2022, et de boucler ainsi la transition en 18 mois, comme les militaires s'y étaient engagés. Le colonel Goïta a assuré que son pays continuerait à mettre en œuvre un important accord de paix signé en 2015 avec certains groupes armés. La CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation de la Francophonie ont suspendu le Mali de ses institutions. Les dirigeants de la CEDEAO doivent se réunir à nouveau en session ordinaire le 19 juin au Ghana.
Retour sur le massacre d'au moins 132 personnes ce week-end dans le nord du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a promis que ce crime ne restera pas impuni. C'était l'attaque la plus meurtrière dans ce pays depuis le début des violences djihadistes en 2015. Le point avec Eric Manirakidza.
Cette incursion meurtrière ne sera pas impunie, a assuré lundi le premier ministre burkinabé Christophe Dabiré. Propos tenus après une rencontre avec les populations de Solane, réfugiées à Séba, le chef-lieu de la province d'Oyaga. L'espoir est permis parce que nous allons nous réorganiser pour pouvoir apporter la réponse appropriée à la situation, a assuré M. Dabiré avant de visiter le lieu du drame. Lundi, le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kabore, a interdit jusqu'à nouvel ordre la circulation des engins à deux et trois roues, souvent utilisés par les djihadistes dans cette zone. Les auteurs du massacre ne sont pas encore identifiés. La province de Yaga, où est situé le village de Solane, est une zone d'action d'un groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda et du groupe État islamique. Rivaux, ils combattent notamment pour le contrôle des territoires et des ressources dans la région.
À Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, où des milliers d'hommes et d'adolescents musulmans ont péri en 1995 aux mains des forces serbes, des survivants se disent soulagés après la condamnation définitive du général Ratko Mladic à la prison à perpétuité. Michel Joseph fait le point.
Près de 25 ans après, des familles rassemblées au centre mémorial du génocide ont écouté en silence hier la retransmission en direct sur un écran géant du verdict rendu par la justice internationale à La Haye. Devant les milliers de stèles blanches, des mères survivantes ont entendu Ratko Mladic être condamné à passer sa vie derrière les barreaux pour crimes de guerre pendant la guerre de Bosnie qui a fait au moins 100 000 morts. Plus de 8000 musulmans bosniaques ont été massacrés en juillet 1995 à Srebrenica, une enclave musulmane censée être protégée par l'ONU dans le pire massacre sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour de nombreux Serbes, le général Mladic est un héros qui n'a fait que défendre les intérêts serbes. Sur les génocides qui ne s'est jamais produit, a affirmé Milorad Dodik, chef politique des Serbes de Bosnie. Ils essaient de créer un mythe. Le président américain Joe Biden a salué la condamnation historique de cet ancien chef militaire surnommé le boucher des Balkans.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, les agents de santé ont débuté hier une grève à Abidjan pour réclamer 13 mois d'impayés de primes liées à la Covid-19. Plus de 4000 fonctionnaires de la santé devraient toucher des primes mensuelles de 90 000 à 235 000 francs CFA, selon les organisateurs. En octobre 2020, les agents de santé qui réclamaient une prime de coronavirus avaient mené deux semaines de grève qui avait perturbé l'activité des hôpitaux publics. La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 12 millions de dollars de l'Association internationale de développement pour un accès gratuit au vaccin anti-Covid en République du Congo. Le fonds permettra de déployer les doses de vaccins dans le cadre du programme COVAX. L'enveloppe vise également à développer les capacités des chaînes d'ultra-froid. La fondation Mastercard a annoncé son intention de faire un don de 1,3 milliard de dollars pour aider les pays africains à faire face à la pandémie, notamment via l'achat de vaccins pour 50 millions de personnes. L'argent servira également à soutenir la distribution et à poser les bases d'une production en Afrique. L'Union africaine s'est fixé l'objectif de vacciner 60% de la population d'ici fin 2022.
Nathalie, et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Suite des matchs amicaux sur le continent à la faveur des journées FIFA, la Guinée a battu le Kosovo 2-1, deuxième succès du rang pour le Sénégal. Après avoir battu la Zambie 3-1 samedi, les Lions de la Teranga ont disposé du Cap-Vert 2-0 à Thiès, service minimum pour le Maroc à Rabat. Les Lions de l'Atlas ont assuré l'essentiel en remportant leur match face au Ghana 1-0. Opposés à Vienne en Autriche, le Cameroun et le Nigeria se sont séparés sur un score nul de 0-0. Battu par le Togo 0-2, la Guinée s'est reprise devant le Kosovo 2-1 à Antalya en Turquie. Le Sili national refermera ses matchs amicaux vendredi contre le Niger, 2-2 entre le Bénin et la Zambie qui se sont affrontés à Cotonou. Le Congolais Silas Wamagituka, auteur de 11 buts cette saison dans le championnat allemand avec Stuttgart, jouait en fait sous une fausse identité. C'est ce qu'ont révélé le club et le joueur, citoyen de la République démocratique du Congo. Silas Wamagituka s'appelle en réalité Silas Katompa Mvupa. Il est né en octobre 1998 et non 1999, comme indiqué sur ses faux papiers. Stuttgart dit prendre la défense de son joueur victime d'une machination, selon lui. Le club allemand soutient que l'ancien agent du joueur l'avait placé sous tutelle en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Après avoir récemment changé d'agent, le jeune homme recruté en 2019 par Stuttgart a décidé de tout avouer de lui-même. J'ai vécu ces dernières années dans l'angoisse permanente et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo, explique l'ailier de 22 ans. Stuttgart dit être en contact avec la Ligue et la Fédération allemande pour clarifier la situation. Athlétisme, l'Éthiopienne Letesse Bey Gidé a battu hier le record du monde du 10 000 mètres lors des sélections olympiques éthiopiennes disputées à Engelo, aux Pays-Bas. Elle efface du même coup le record établi il y a deux jours à peine sur la même piste par la néerlandaise Sifan Hassan. En 29 minutes 1 seconde, Guidé a battu les 29 minutes 6 secondes de Hassan et détient désormais les records du monde du 10 000 mètres et du 5 000 mètres, 14 minutes 6 secondes établis en octobre 2020. À 23 ans, l'Éthiopienne originaire du Tigré s'impose en patronne du Fonds mondial après avoir été vice-championne du monde du 10 000 mètres en septembre 2019 à Doha, au Qatar. Et puis des nouvelles de tennis avec Roland Garros, Stefanos Tsitsipas, cinquième mondial, est sorti vainqueur du premier grand choc du tournoi parisien. Il s'est qualifié pour sa deuxième demi-finale consécutive à Roland Garros en éliminant Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 7-5 en 2h19. Le Grec de 22 ans affrontera Alexander Zverev, sixième mondial, pour une place en finale.
Merci Yacouba. Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le clergé camerounais a lancé un appel à l'armée et aux rebelles séparatistes pour qu'ils cessent d'enlever et de harceler les prêtres. Au cours des deux dernières semaines, 6 prêtres et missionnaires catholiques ont été enlevés. Une église a été attaquée, bilan, au moins 2 morts et 11 blessés. De Yaoundé, reportage de Moki Edwin Kidzeka, récit d'Eric Manirakiza.
L'église catholique romaine du Cameroun affirmait que ses prêtres et ses missionnaires sont victimes d'agressions, d'enlèvements et de tortures dans le conflit séparatiste. Selon un communiqué de l'église publié mardi, l'armée camerounaise a enlevé le révérend père Sylvestre Ngarabansa à Vekovi, un village du nord-ouest, le 4 juin, et ne l'a toujours pas libéré. L'église affirme que les militaires ont accusé Nsa de coopérer avec les séparatistes, ce que l'église nie.
The church preaches peace. The church teaches.
L'Église prêche la paix. L'Église enseigne que vous ne pouvez pas avoir de paix sans justice et sans vérité. L'Église doit continuer toujours à insister sur cette justice et cette vérité. Lorsque l'Église dit la vérité, elle n'est pas souvent bien accueillie par l'un ou par l'autre camp. De nombreuses paroisses ont été fermées ou ne fonctionnent pas comme elles le devraient.
Mbuyi affirmait qu'au moins 6 prêtres et missionnaires ont été torturés par les militaires ou les rebelles au cours des 2 dernières semaines et ont dû être soignés dans des hôpitaux. Le révérend père Christopher Eboka est l'administrateur de la cathédrale de Mamfe, une ville du sud-ouest anglophone. Il affirmait que les rebelles l'ont enlevé le 22 mai et ne l'ont libéré qu'après 10 jours de captivité.
L'Église a été prise en tenaille entre les combattants séparatistes d'une part et l'armée camerounaise d'autre part. Les menaces sur la vie des prêtres, les attaques contre les prêtres doivent cesser. Le dimanche 6 juin, les prêtres réunis au centre pastoral pour célébrer l'anniversaire de l'un d'entre eux ont été attaqués par des inconnus armés venus à la recherche d'un prêtre.
L'Église a déclaré qu'une personne est morte dans l'attaque, une deuxième est décédée à l'hôpital et 11 autres ont été traités pour des blessures. La conférence épiscopale des évêques du Cameroun a appelé les séparatistes à cesser de cibler et de harceler le clergé local. L'armée camerounaise a confirmé à la radio d'État les attaques des rebelles contre l'Église et les enlèvements passés, mais n'a pas mentionné la détention de prêtres par l'armée. Un rapport de Human Rights Watch publié en mars indique que les abus commis par les militaires et les rebelles sont en augmentation dans les régions anglophones. L'ONU affirmait que le conflit séparatiste a fait plus de 3000 morts et 750 000 déplacés ou réfugiés vers le Nigeria voisin.
Drohmandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Burkina encore en deuil après l'attaque terroriste la plus meurtrière depuis 2015. Des individus armés ont pris d'assaut le village de Solan dans le nord-est, faisant au moins 160 morts. Un bilan macabre qui vient rappeler que ces groupes sont plus actifs que jamais dans le Sahel, malgré les mesures prises dans ces pays et au niveau régional. Qu'est-ce qui explique la montée en puissance des groupes djihadistes au Burkina Faso? Quelle réponse face aux groupes armés? Comment sont pris en charge les populations déplacées par l'insécurité? Nous discuterons de tout cela ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique, VOA Afrique.
Agriculture et entrepreneuriat au Gabon. Des jeunes sont formés pour devenir agripreneurs. Comprenez entrepreneur dans le domaine agricole. C'est une initiative du gouvernement gabonais qui entend leur donner un appui financier et foncier au terme de cette formation de 6 mois. De Libreville, reportage d'Ismaël Obiangze.
Comme dans une salle de classe de lycée, les futurs entrepreneurs agricoles sont à l'école de l'activité biologique des sols. Ils prennent des notes sur les techniques du maraîchage. C'est un volet important de la formation théorique avant d'aller sur le terrain.
On est beaucoup plus dehors pour apprendre à faire les planches, à confectionner les planches, à préparer le sol, à faire toutes les opérations nécessaires à l'activité agricole.
Sur le plan plus pratique, les agripreneurs doivent maîtriser les itinéraires de remise en vie des sols. La construction du scénario pédagogique de la formation entre ici en jeu avec le binage, une méthode qui consiste à améliorer la nature du sol et à renforcer les végétaux. Les premières semaines d'évaluation du projet sont à la hauteur des attentes des experts de l'Institut gabonais d'appui au développement.
Les apprenants en arrivant ici, ils ne sentaient pas l'intérêt. Mais dès les premiers cours, ils ont compris l'importance d'acquérir ce métier et qu'avec ce métier, ils ont la possibilité de se prendre en charge. Et beaucoup déjà commencent à parler de projets agricoles, de voir comment ils vont mettre en pratique toute cette formation.
À la suite de leur formation, ces jeunes seront intégrés dans la chaîne d'approvisionnement du programme de la Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés en abrégé GRAEN pour l'écoulement de leurs produits.
Mon rêve à moi, c'est d'avoir une exploitation agricole. J'ai réalisé que le secteur agricole, aussi bien en Afrique que dans notre pays, était un secteur porteur. Et j'ai voulu participer aux côtés de notre gouvernement à développer le secteur agricole afin que le Gabon soit autosuffisant au plan alimentaire.
En quête justement d'une autosuffisance alimentaire, le Gabon a déjà mis à la disposition des exploitants agricoles plus de 8000 parcelles sécurisées et cadastrées pour le développement de leur activité. Une aubaine pour Karl Mouguba Mougoula, un jeune technicien agronome que nous suivons tout au nord de Libreville, bien loin des potagers des Ligades.
Avec ce que vous-même vous produisez, vous cultivez, vous récoltez, vous mangez, vous voyez d'autres Gabonais manger, ou bien d'autres jeunes manger, ça me fait la joie au cœur. Et pourquoi pas, nous on vise l'autosuffisance alimentaire dans notre pays.
Le Gabon souhaite à l'horizon 2025 produire localement plus de 50% de la consommation alimentaire du pays, ce qui lui permettra d'accroître la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut du pays. Ce secteur représente actuellement moins de 10% du PIB. Ismaël Obionze pour VOA Afrique, Libreville.
Le service de la faune du Kenya a déclaré pour la première fois en 21 ans qu'aucun rhinocéros n'a été braconné dans les parcs nationaux du pays en 2020. L'agence prend de nouvelles mesures pour maintenir ses progrès. Un reportage de Victoria Amunga à Nairobi, relaté par Nathalie Barge.
Le service de la faune du Kenya attribue l'absence de cas de braconnage de rhinocéros à l'intensification de la surveillance. Il mène actuellement le tout premier recensement de la faune et place des conteneurs mobiles dans les parcs pour les gardes. Edwin Wanyoni, directeur des stratégies du service de la faune.
There's a new strategy in the entire KWS that we're focusing on housing for rangers.
Il y a une nouvelle stratégie. Nous nous concentrons sur le logement des rangers. Nous nous concentrons sur l'achat de leur équipement, que ce soit des armes à feu, en uniforme, des vêtements pour temps froid, tout ce dont ils ont besoin afin qu'ils puissent répondre à tout moment.
Dans le parc national de Nairobi, les abris des gardes forestiers et de l'unité de surveillance des rhinocéros sont en train d'être modernisés. Augustine Moutoua affirme que les nouvelles unités de logement en conteneur les aideront à travailler beaucoup plus rapidement que les vieilles tentes.
Vous devez vous lever très tôt le matin. Vous préparez votre petit déjeuner, puis vous sortez directement en patrouille. Pas comme tout à l'heure quand on est sorti de la tente pour aller chercher de l'eau quelque part. Vous pouvez voir que nous avons des réservoirs.
Le Kenya a accueilli plus de 2 millions de touristes en 2019. La plupart vont voir sa faune, dont les rares rhinocéros noirs menacés d'extinction. Raoul Bédé, un visiteur du parc national de Nairobi.
It's great that there's been no poaching.
Je pense que c'est formidable qu'il n'y ait pas eu de braconnage. Ce parc est très bien protégé, ce qui n'est pas vraiment le cas des autres parcs, à vrai dire.
Les braconniers tuent les rhinocéros pour leurs cornes qui se vendent jusqu'à 60 000 dollars le kilo sur les marchés asiatiques. Le braconnage a réduit de 97% la population de rhinocéros noirs du Kenya entre les années 60 et 90, passant de plus de 20 000 à quelques centaines. Mais les efforts de conservation ont aidé la population de rhinocéros sauvages à se rétablir en environ 1200, y compris les deux derniers rhinocéros blancs du nord au monde, des femelles, après la mort du dernier mâle au Soudan en mars 2018.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Associer les instruments musicaux traditionnels du Mali à la musique urbaine, particulièrement le hip-hop, c'est un projet en cours à Bamako pour valoriser les instruments mandeng. C'est une première au Mali. Pour l'instant, environ 80 jeunes du district de Bamako vont suivre une formation. De Bamako, notre correspondante Mariam Kouyaté.
Ce rythme,
c'est celui du taman, un instrument traditionnel ancestral du Mali. Pour la valoriser, ces instruments comme la calebasse, le balafon, le djembé et bien d'autres. Une association culturelle du Mali nommée Somané Taman Traditionnel lance un défi, fusionner ces instruments traditionnels à la musique urbaine, particulièrement le hip-hop. Cheikh Nessi Soko en est l'initiateur.
Je suis en train d'aider les jeunes rappeurs qui font du rap sur les beats, de les faire comprendre qu'on peut faire toutes ces chansons-là sur nos instruments traditionnels. Parce qu'en 2016, j'ai passé l'expérience, j'ai été au festival Eroquien, Belfort, et puis au festival Roskilde avec le même projet. J'étais avec trois jeunes qui font du rap. Donc c'est pour cela que j'essaye de former les jeunes à les apprendre à chanter sur nos instruments traditionnels parce que les playbacks là et les beats là, ça ne vient pas de chez nous. Bon, c'est des beats des Américains. Or que tous ces beats là, on a ces instruments. Il y a la kaleba, c'est taman et autres. C'est pour cela que j'ai créé ce projet.
Environ 80 jeunes artistes musiciens issus des 6 communes de Bamako seront outillés aux techniques de mixage. Auparavant, certains ont déjà appris beaucoup sur la notion du taman, cet instrument ancestral.
On a appris beaucoup sur le taman. Par exemple, on a appris que le taman parle cette langue. Et quand tu mets au niveau des aisselles, tu pinces, après tu enlèves. Dans les pincements, ça donne cette langue. Bon, nous, avant on jouait seulement 4 langues. Il y a beaucoup de trucs dans le taman, comme autrefois, les rois, quand tu voulais qu'un roi fasse quelque chose pour toi, bon, les rythmes qu'il faut jouer, on a pris ces notes-là aussi qu'on ne savait pas.
L'initiative est jugée salutaire par le directeur général du Palais de la Culture de Bamako, Abdoulaye Diombana. Il souhaite voir ces instruments musicaux vont aider à ouvrir les portes de l'avenir pour ces jeunes.
Le taman était resté au service du roi, tout simplement des chefs de quartier ou autres. Mais on assiste aujourd'hui au développement du taman dans la musique moderne. Alors c'est pourquoi j'apprécie beaucoup. Réellement, aujourd'hui, je sais que c'est un groupe qui pourra amener le taman très loin, donner au taman ce qu'il lui faut, c'est-à-dire dans les orchestres modernes.
Après cette formation de 80 jeunes artistes, les restitutions seront partagées lors de la 7e édition du festival intitulé La Nuit du Taman, prévue du 1er au 7 novembre 2021 à Bamako. Mariam Kouyaté, VOA Africa, Bamako.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.